Écoutez bien. Ozone, O3. Gaz, 3 mm d'épaisseur. Environ 300 dopsons.
Ozone libre. Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le petit Thomas attend ses parents à la caisse centrale.
Ozone libre.
Qu'est-ce qu'on a retrouvé, Thomas ?
Ozone libre, de cristaux.
Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le temps passe.
Bienvenue chez Dobson. Ozone libre.
Ozone libre.
Ozone, une heure de liberté.
C'est l'histoire de deux chasseurs qui se promènent donc dans la forêt. Et d'un seul coup, un des chasseurs tombe raide. Son copain se précipite vers lui, le regarde. Il bouge plus, il a plus de pouls, il respire plus. Donc le deuxième chasseur s'affole, prend son téléphone et appelle les urgences. Donc il tombe sur un médecin qui lui dit « Bon bah écoutez, vous affolez pas, assurez-vous d'abord qu'il est bien mort. » Donc le chasseur donc, va voir son copain, il y a un blanc dans le téléphone, il va voir son copain et on entend « Pan !» un coup de fusil. Et le chasseur revient vers le médecin et lui dit « Bon, ça y est, c'est fait, qu'est-ce que je fais maintenant ?»
Une lutte des classes, inégalité et égalité, révolution, syndicat, mafia, discrimination, ségrégation, Martin Luther King, Gandhi, Jésus, Mandela, Lennon, répression, art, avantage, injustice, tiers, état, séparation des pouvoirs, homophobie, front populaire, grève, chemise déchirée, revendication, carton rouge au travail des enfants, souffrance, exclusion collective, pétition, médiatisation, parce que c'est notre projet. Vous l'aurez compris, nous abordons aujourd'hui le thème des mouvements sociaux et des luttes sociales. D'après Karl Wikipédia, la notion de mouvement social est définie de manière différente selon les disciplines. En histoire, il s'agit de l'ensemble des événements au cours desquels certains groupes comme des classes sociales cherchent à modifier l'organisation de la société en fonction de leurs idéaux. Répartition des richesses et du pouvoir politique, progrès social. En politique, et par métonymie, un mouvement social est une somme d'actions qui veulent la concrétisation de cette volonté du progrès social. Pour les sociologues, un mouvement social est un ensemble de réseaux informels d'organisation des acteurs isolés, construits sur des valeurs partagées, de la solidarité, et qui se mobilise au sujet des enjeux conflictuels, en ayant recours à différentes formes de protestation. Il peut s'agir par exemple de la Révolution française, de la Commune de Paris, des mouvements dans le monde en 1968, et plus près de nous, de la grève contre les réformes des retraites en 2010, ou de la grève des étudiants québécois en 2012. Pour en savoir plus, nous recevons aujourd'hui Madame Nathalie Verdel, secrétaire générale du syndicat CGT pour le département de l'Eure.
Au sommaire d'aujourd'hui, une interview très sociale et sociable, une petite cuisine revendicatrice, des lectures de textes votés en Assemblée générale, des musiques mobilisantes mobiles, un narvalo répressif et gréviste, un micro-trottoir dans la rue à Chemonbien. Une rubrique à braque révolutionnaire, une minute du pôle unitaire. Pour vous servir aujourd'hui, Rumi, Bakari, Didier, Karim, Mimi, Aboubakar, Yakuba, Joao, Edo, Stéphane, Vétière, Sandrine, Vivien et Timothée.
Normal, c'est normal. Je prends l'avion pour la première fois de ma vie et il s'écrase en pleine mer. Je suis le seul survivant et j'aime pas nager. Bon, en réalité, je suis pas le seul survivant. Il y a aussi mon voisin dans l'avion. Il me demande de venir l'aider parce qu'il sait pas nager. Bah, je devrais l'aider. Sauf qu'il m'a parlé pendant tout le vol de sa passion pour Cyril Hanouna. Et la simple idée de finir ma vie sur une île déserte avec quelqu'un qui me parle d'Hanouna. Bref, je l'ai laissé se noyer. Bon, j'ai quand même eu quelques scrupules. J'ai fait demi-tour Et là, il m'a dit que si je le sauvais, il me donnerait une photo dédicacée par Hanouna. J'ai donc gagné à la nage la seule île déserte des alentours, tout seul. Et là, j'ai pleuré de ne pas avoir pris le kit de survie que je m'étais préparé, avec le couteau de Rambo, avec plein de trucs dedans pour pêcher ou se recoudre le ventre. Et surtout une tente, histoire de ne pas dormir à la belle étoile. Par contre, je regrette pas de pas avoir pris mon CD préféré. Vous savez, comme ces magazines de musique qui vous demandent quel disque vous emporteriez sur une île déserte. Ok, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait d'un CD sans lecteur et sans électricité? Non. Tout ce que j'ai avec moi, c'est mes fringues. Un short, des tongs, un bob et des lunettes de soleil. Bref, l'équipement parfait pour une île déserte des Antilles. Sauf que visiblement, cette île déserte, elle doit être plus proche de la Bretagne que de la Guadeloupe. Alors, survivre à un accident d'avion pour mourir de froid en tongs, bah c'est normal, c'est tout à fait normal, c'est ma veine habituelle. Mais au moins, je n'entendrai plus jamais parler d'Hanouna. Et au moment où je croyais mourir, j'entends crier « Ça va mes petites chéries ?» Cette île n'est pas déserte du tout, et je suis arrivé en plein tournage, ne touche pas à mon poste en vacances. Finalement, il y a pire que de mourir dans un accident d'avion, c'est d'y survivre. Ma veine habituelle. Nous venons donc d'écouter Aux armes, etc., la Marseillaise revue par Serge Gainsbourg. Et nous recevons aujourd'hui Nathalie Verdeil, secrétaire générale de la CGT de l'Eure. Donc déjà, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors, pouvez-vous nous présenter la CGT, le syndicat, et votre rôle au sein du syndicat?
Alors, donc moi, je suis la secrétaire générale de l'Union départementale, exactement, des syndicats CGT de l'Eure. Donc, on est chargé de coordonner l'activité de la CGT, de tous les syndicats CGT qui sont dans les entreprises, dans le département. Et à la fois, évidemment, d'œuvrer et de convaincre les salariés à l'intérêt qu'ils ont à se syndiquer et qu'il y ait de plus en plus de syndicats CGT dans les entreprises. Voilà si je veux répondre brièvement, parce qu'après, si je vous explique ce qu'est la CGT, ça risque d'être peut-être un peu long.
Et pouvez-vous nous dire à quoi servent les syndicats et sont-ils vraiment nés des mouvements sociaux ?
Alors, les syndicats, à quoi ça sert ? C'est une très bonne question, parce qu'en ce moment, en plus, c'est vraiment encore plus d'actualité aujourd'hui avec ce qui se prépare. Les syndicats, c'est un regroupement de salariés à la base dans une entreprise. Donc, c'est fait pour défendre l'action collective et faire avancer des revendications des salariés dans l'entreprise pour aller vers plus de progrès, on va dire, social et mettre en œuvre œuvrer à la satisfaction des besoins de tous dans l'entreprise, enfin du plus grand nombre. Voilà. Après, l'intérêt qu'ont les salariés à se syndiquer, aujourd'hui il y a très peu de syndiqués hein, en France, pas assez. Et l'intérêt, c'est justement au sein d'une entreprise d'avoir un pouvoir collectif vis-à-vis de l'employeur, vis-à-vis du patronat, pour créer collectivement le rapport de force nécessaire et œuvrer justement à la solidarité entre les salariés vis-à-vis de ce que l'employeur voudrait imposer ou voudrait faire régresser dans l'entreprise.
Alors, est-ce qu'il y a des mouvements sociaux sans syndicat ?
Alors oui, il y a des mouvements sociaux sans syndicat, puisqu'en fait les mouvements sociaux, mais vous l'avez un petit peu déjà dit dans vos définitions tout à l'heure, la base d'un mouvement social, c'est l'origine n'est pas forcément syndicale, elle l'est souvent, mais pas forcément. Après, ça dépend à partir de quoi naît le mouvement et pour quoi faire et pour défendre quoi. Les syndicats et les organisations syndicales sont là avant tout pour la défense des intérêts des salariés. Après, évidemment, ça peut, et surtout pour la CGT, on va dire, ça peut se recouper avec des intérêts plus collectifs de changement ou d'une volonté, d'un choix de société différent qui se recoupe avec parfois d'autres mouvements qui ne sont pas forcément des mouvements liés à la défense des intérêts propres des salariés.
Et à quand peut-on faire remonter les premières luttes sociales dans le monde et surtout en France ?
Ah, parce que là, je ne dirai pas la date exacte, parce qu'un mouvement social, alors après, si c'est une organisation syndicale, si c'est une base d'un mouvement syndical de salariés, les premières luttes, elles remontent depuis qu'il y a des salariés, on va dire, hein, donc exactement, je ne daterai pas, et les premières luttes, elles remontent avant même que la CGT existe. La CGT, elle a fêté ses 120 ans l'année dernière. Et avant la création des organisations syndicales, en France, il y avait déjà des mouvements, on va dire, plus corporatistes. Une corporation, c'est plus lié à un métier. C'était des salariés qui sera rassemblés autour de leur métier, les plombiers, les menuisiers, les couturières, pour défendre l'intérêt de leur profession. Et après, ils ont fait aussi des regroupements mutualistes et ne sont venus que les syndicats après, puisque le mouvement syndical et l'organisation de salariés en syndicat a été longtemps interdit et il a été vraiment autorisé que début 1900, hein, enfin 1901 on va dire, où là il y a eu une reconnaissance on va dire plus légale de l'organisation de syndicats.
Et alors, quelles sont les grandes luttes sociales qui ont marqué l'histoire, que ce soit en France ou dans le monde ?
Alors, des grandes luttes. Alors, il y a pas. On dit toujours que, enfin, la CGT, on dit qu'il n'y a pas de petites luttes et de grandes luttes. Après, il y a des petits mouvements ou des gros mouvements. Mais c'est deux choses un peu différentes. Évidemment, vous en avez cité certaines, mais sur les luttes liées au mouvement des salariés et à l'histoire sociale du mouvement ouvrier. On va dire, en France, évidemment, il y a les plus connues. Les plus connues, ce sont celles où souvent il y a eu le plus de droits gagnés par les salariés. Donc, il y a eu 36, forcément, hein, les grandes grèves des années 30, où il y a eu beaucoup d'occupations d'usines. Et c'est là que remonte, entre autres, l'essentiel des prémices des droits des salariés, comme les fameux congés payés. Hein. En principe, quand on fête l'anniversaire de 36, on fête avant tout l'anniversaire des congés payés pour les salariés. Il n'y avait pas que ça. Et puis après, il y a eu les grands mouvements de 68. Mais entre deux, il y a eu beaucoup de périodes, alors peut-être moins connues, parce qu'on les retient moins, parce qu'il y avait moins de mouvements de grève. Mais il y a eu toute une partie aussi, la libération, avec la résistance dont le mouvement ouvrier a fait grandement partie. Quand même, il y avait beaucoup de résistants qui étaient des syndicalistes, qui ont été d'ailleurs sanctionnés, voire chassés pour ça. Et après, il y a ce qu'on a appelé le CNR. Alors, ce n'est pas un mouvement syndical en soi, mais le début, en fait, du Conseil national de la Résistance, il y avait beaucoup de syndicalistes, et il y a eu beaucoup de droits et d'institutions de créer après la guerre, hein, comme entre autres la sécurité sociale, qui aujourd'hui est attaquée de plein fouet. Mais il y a eu beaucoup de morts. Après, évidemment, il y a eu 68. 68, c'était surtout des occupations d'usines. D'ailleurs, on va fêter l'anniversaire l'année prochaine, donc de mai 68. Et surtout, ce qu'on va remettre en avant, c'est toutes les conquêtes qu'il y a eu autour de mai 68, entre autres des augmentations de salaire pour les salariés dans les usines qui allaient de 20 à 30%, hein, puisque les salaires étaient aussi relativement bas. Et voilà, on va dire, l'essentiel. Mais des luttes, il y en a eu beaucoup, et aussi, évidemment, dans le monde, puisqu'il y a des syndicats et des organisations syndicales dans le monde entier. Et d'ailleurs, la CGT est partie prenante de la Confédération syndicale internationale, la CSI, qui regroupe quelques milliers d'organisations syndicales, et de la Confédération européenne des syndicats, qui là regroupe plus de 80 organisations syndicales en Europe déjà.
Ok, mais tout à l'heure, vous nous avez parlé de 1968.
Oui.
Et à part 1968, quelles sont les grandes dates de lutte sociale que vous pouvez nous apporter pour nous rafraîchir un peu la mémoire? Nous autres, nous ne savons pas, quoi.
Ah oui, alors, pour vous rafraîchir la mémoire, je vais peut-être du coup aller maintenant sur des luttes plus récentes, peut-être. Ouais. Parce qu'il y a eu des luttes après 68. C'est vrai que souvent on dit 36, 68, la libération, voilà. Vous avez cité aussi, il y a eu des mouvements, il y a eu un gros mouvement avec une grosse victoire, ça c'était en 2006, c'était le CPE, le contrat première embauche, hein, qui a concerné, qui a duré plusieurs mois, qui a duré 3 mois, 4 mois de lutte, de mouvements sociaux, de grève, qui était aussi un mouvement unitaire avec des organisations de jeunesse. Donc il y avait le mouvement étudiant, l'UNEF, l'UNEL, qui était fortement impliqué dans ces mobilisations, puisque c'était des contrats qui, la mise en place de contrats qui concernaient principalement les jeunes sortis d'école ou qui arrivaient sur le marché du travail pour la première fois. Et là, c'est un exemple flagrant, c'est une loi qui avait été avec une ordonnance, d'actualité aussi, qui avait été qui était passé, donc qui avait été, et le mouvement social a fait que la loi et le contrat première embauche, même s'il était passé par ordonnance, a été retiré sous la pression du mouvement social. Après, il y a eu les grosses luttes de 95 aussi, déjà sur les retraites. Alors les retraites, c'est cyclique, hein, puisque en principe le patronat et le gouvernement attaquent les régimes de retraite tous les 5-6 ans à peu près, on y a droit. Donc il y a eu 95 sur les retraites, il y a eu 2003, il y a eu 2010 aussi, un très gros mouvement sur les retraites qui a duré plusieurs mois, là où malheureusement les victoires engrangées sont moins nombreuses que comme sur le CPE par exemple. Et récemment encore, puisque l'année dernière, on était quand même plusieurs mois dans la rue contre ce qu'on a appelé la loi El Khomri, la loi travail, qui est aujourd'hui remise sur le tapis par le nouveau gouvernement qui veut accélérer encore, aller plus loin encore dans la loi travail, qui est une vraie régression sur les droits des salariés dans les entreprises.
Et alors, est-ce qu'il y a des luttes qui ont pas abouti ou qui ont échoué?
Ah bah tu vois, j'ai déjà avancé ta
un
question
petit peu, oui.
Un petit peu. Alors oui, il y en a certaines qui aboutissent pas, c'est vrai, sur les mouvements interprofessionnels entre autres, parce que C'est des mouvements où il faut que le rapport de force, quand on parle des retraites par exemple, il faut que le rapport de force, c'est-à-dire le nombre de salariés au-delà des syndiqués qui s'impliquent dans le rapport de force, pour le coup, il faut qu'ils soient très nombreux, puisque c'est des réformes qui atteignent des millions de personnes. Et parfois, le mouvement syndical, à lui tout seul, souvent même, ne suffit pas. Il faut vraiment que les salariés s'investissent dans le mouvement social, au-delà du champ proprement syndical. Après, il y a aussi, j'ai envie de dire, des luttes tous les jours dont personne ne parle. Et dans les entreprises, en France, il y a des luttes quasiment quotidiennes de salariés dans leur entreprise qui défendent tout, qui défendent leurs conditions de travail, qui défendent leur temps de repos, qui défendent leur temps de travail, qui défendent des problèmes de sécurité dans l'entreprise, qui défendent leur salaire, hein, qui défendent voilà, plein de choses comme ça au quotidien. Et tous les jours, on recense dans la CGT et ailleurs, je pense que ça doit être pareil, des luttes de salariés, mais qui restent souvent confinées à l'entreprise. Et pour le coup, dans l'entreprise, c'est vrai que le rapport de force est souvent plus simple parce qu'il concerne moins de personnes. Et là, par contre, on a des luttes gagnantes quasiment, pas quotidiennement, mais beaucoup plus souvent que sur un rapport plus large.
Et pouvez-vous nous dire quelques éléments déclencheurs des luttes sociales ?
Alors, des éléments déclencheurs des luttes sociales, tu vois, il y en a plein. Il y en a plein dans les entreprises. Ça peut partir de, je ne sais pas, ça peut partir d'une cantine, de préoccupations de salariés au quotidien. Hein, voilà. Après, j'ai envie de dire le point commun. Et le détonateur des luttes, plus largement, je pense que c'est l'injustice, peut-être, et la colère. Je pense que c'est les deux dénominateurs à peu près, il y en a peut-être d'autres, mais qu'on peut trouver dans la plupart des luttes. C'est souvent quand les salariés se sentent injustement attaqués dans leurs droits, ou qu'ils sont en colère, parce que pareil, ça vient de l'injustice sur je sais pas, un patron, là on a les dix... Hier, il y avait les dix premières fortunes de France qui ont vu, par exemple, leur revenu augmenter de 30% à l'année. Et en même temps, on nous annonce que les salariés vont perdre environ 2% de leur pouvoir d'achat. Donc, c'est des sentiments comme ça dans l'entreprise où on travaille et selon où on travaille qui peuvent créer des, voilà, à force une colère et une injustice qui fait que les salariés se révoltent à un moment donné.
Alors, je vous propose maintenant d'écouter un micro-trottoir qu'on a réalisé dans les rues d'Évreux, où on a demandé « Connaissez-vous des luttes qui ne soient ni de droite ni de gauche ?»
Connaissez-vous des luttes qui sont ni de la droite et ni de la gauche ?
C'est une bonne question. Oui, oui, je pense, oui. Le droit, l'accès au logement, par exemple, le droit d'être... de pouvoir manger, on n'a pas de raison d'être d'une couleur ou d'une autre quand on fait ça, d'une couleur politique. Oui, il y a sûrement plein de luttes qui ne sont pas... par exemple, quand on se bat pour ne pas la souffrance animale, tu vois, il n'y a pas de raison d'être républicain, socialiste ou d'extrême droite ou peu importe quoi. Il y a des luttes qui, il y a des combats qui ne nécessitent pas une appartenance politique.
Oh bah oui, il y a des gens comme le Secours catholique, comme tous ces organismes-là, ils font pas partie, ils sont pas forcément un parti politique, c'est leur conviction à eux, hein. Vous voyez, vous connaissez le Secours catholique ou plein d'organismes, l'Armée du Salut ou tous ces organismes-là, eux, ils sont pas de droite ni de gauche, hein. Qu'est-ce que t'en penses, hein ? Ils ont leur conviction, ces gens-là, non ?
Bah, le FN, le Front National, hein, ni de la droite, ni de la gauche. Voilà, le Front National, hein. Voilà.
Bah justement, je pense qu'il ne faut pas que ce soit de droite et de gauche. Enfin, il faut que ce soit justement un mouvement ouvrier ou un mouvement né de l'entreprise et que justement que ça dépasse les clivages habituels.
Non, très franchement, là, comme ça, spontanément, non. Mais c'est plutôt quand même, les luttes sont plutôt quand même à gauche, à mon avis. Les luttes sociales.
Alors, pour être honnête, je me suis jamais vraiment posé la question de si c'était de droite ou de gauche. Pour moi, une lutte sociale, c'est une lutte sociale. Après, quel que soit le côté politique, quoi, en fait.
Bah pour moi, déjà, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche. Je mets les deux dans le même sac. Mais honnêtement, non, non. Je connais pas des choses spécifiques à la droite qu'à la gauche. Pour moi, ils ont la même politique et ils sont très 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 loin de faire vraiment une lutte sociale.
Alors, est-ce que vous avez des réactions sur ce qu'on vient d'écouter ?
Oui, j'ai des réactions, ouais. Alors, pour la plupart, c'est bien parce que, enfin, moi, bon, déjà, ils répondent et puis on voit que dans leurs réponses, ça peut partir sur beaucoup de champs différents, hein, puisque ça va de la cause animale au droit au logement, voilà. Après, sur la question posée droite, gauche, alors moi j'ai envie de dire, même si je sais que parfois les organisations syndicales sont perçues comme certaines plutôt de gauche, d'autres plutôt de pas grand chose. Et à la CGT, y a, alors l'histoire veut que la CGT a été longtemps liée à l'histoire du Parti communiste français. Ça, c'est une voilà, hein, faut pas le renier, c'est l'histoire. Ensuite, il y a eu, et aujourd'hui, c'est beaucoup moins vrai, on va dire. Il n'y a pas de lien direct entre un parti politique, aucun parti politique, et la CGT. Et dans ses statuts, la CGT autorise les salariés, évidemment, à se syndiquer, quelle que soit leur appartenance politique, religieuse ou autre. Après, il y a une exception, j'ai envie de dire, hein, je la revendique haut et fort, c'est le Front National. La CGT n'a jamais considéré le Front National comme un parti républicain et encore moins comme un parti comme les autres. Donc ça fait quand même quelques années, et on l'a renouvelé fortement cette année, l'opposition aux idées d'extrême droite plus largement voilà que la CGT et on essaie dans nos rangs que un syndiqué ou un militant surtout de la CGT ne fasse pas l'amalgame entre ce qui est de l'intérêt des salariés et ce que prônent ou les valeurs du Front National. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, l'exception. Après, quand un syndiqué syndique à la CGT, on lui demande pas s'il est adhérent à un parti. Je pense que la plupart ne le sont pas. Et il y en a certainement qui sont adhérents, je sais pas, au Parti Socialiste, au Parti Communiste, voire à d'autres partis. Du moment qu'il fait la part des choses entre son activité syndicale et son activité politique, voilà, ça pose pas vraiment, réellement de problème. Voilà.
Et tout à l'heure, comme vous l'avez dit, que la CGT fait partie du Parti communiste français. Mmh. Et qu'on attend une lutte sociale. Comme nous, on a toujours tendance à attendre que le Parti socialiste ou la gauche, on ne sait pas. Mais on veut savoir réellement si vraiment les luttes sociales ont un rapport avec les mouvements politiques.
Ah oui, de toute façon, il y a forcément un rapport avec, on va dire, le politique. Alors, je dirais, il y a le politique politicien, hein, ou la politique politicienne, et la politique au sens large. La politique, hein, au sens large, c'est des choix de société. Et à chaque moment, même un citoyen, tous les jours dans sa vie, à un moment donné, il fait des choix. Hein, il fait des choix. Et forcément, c'est des valeurs qui sont différentes. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que la gauche et la droite... Moi, c'est vrai que je ne suis pas d'accord quand j'entends il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite. Après, c'est vrai que tout a été fait aujourd'hui pour que ce soit un amalgame de tout et pour disloquer les partis politiques. Ça, c'est une vision un petit peu peut-être plus personnelle. Mais il y a des valeurs. Il y a des valeurs dans lesquelles on se reconnaît. Et quand on dit valeurs de gauche, valeurs de droite, il y a quand même une valeur... plus symbolisée, on va dire, par la gauche, qui est plus une valeur de solidarité et de partage, surtout. Et ce qui nous rapproche un petit peu de ces valeurs-là, c'est le partage des richesses entre les salariés et les richesses qui sont produites, et les valeurs qui sont plus de droite, qui sont des valeurs beaucoup plus libérales et beaucoup plus capitalistes, donc qui vont plus dans l'intérêt, on va dire, pour le dire simplement, l'intérêt des riches et l'intérêt des moins riches de l'autre côté, voire l'intérêt des populations qui sont laissées de côté, ou des plus pauvres, ou des exclus. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt... c'est un constat, c'est que les politiques qui sont menées, elles ne sont pas les mêmes, globalement, en fonction des valeurs qu'on a. Je ne dirais pas des partis, mais des valeurs qu'on a.
Alors, est-ce qu'il y a des pays ou des cultures qui sont plus ou moins touchés, ou enfin concernés par les luttes sociales ? Est-ce que ça varie dans les coins du monde ?
Franchement, je crois que tous les salariés dans le monde aujourd'hui... sont concernés par les luttes sociales. On a eu à la CGT, on a beaucoup de contacts de solidarité internationale avec des travailleurs du monde entier. Après, c'est les conditions Les conditions d'exercer l'action syndicale dans certains pays du monde ne sont pas les mêmes que chez nous ou que dans d'autres pays, on va dire plutôt de l'hémisphère nord ou des pays européens, où nous, au fil du temps, on a quand même obtenu pas mal de droits pour exercer une activité syndicale, même si aujourd'hui, vous avez vu, y compris l'année dernière, il y a eu quand même un acharnement un petit peu sur pas mal de syndicalistes dans les luttes sociales. Mais bon, après, il y a des... on a des liens avec des travailleurs ou des syndicalistes qui sont parfois emprisonnés pour ce qu'ils font ou ce qu'ils revendiquent, hein, qui n'ont pas de droits du tout, et où voire qui meurent, hein, parce qu'il y a encore des pays où on meurt parce qu'on lutte pour des valeurs ou parce qu'on revendique des choix différents du pouvoir politique en place dans ce pays-là. Et je dirais que c'est la différence. Après, tous les salariés dans le monde, à un moment donné, sont sujets à se révolter parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont opprimés par ce qu'on appelle les capitalistes, hein, mais les grands groupes internationaux. Et maintenant, c'est des firmes internationales qui quand même profitent de beaucoup de salariés dans le monde et dans des pays où, entre autres, on donne une misère à des gens et on les exploite pour travailler et produire d'énormes richesses.
Et y a-t-il différents moyens d'expression de lutte sociale selon les pays ? Et s'il y a des exemples ? D'expression de lutte sociale selon les pays.
Ah ben oui, il y a différents moyens, oui. Alors bon, nous, on va dire que le français est spécialiste de la rue, même si à mon goût pas assez. Après, l'expression des luttes sociales, oui, forcément, dans les pays où on se trouve, comme je le dis, hein, il y a des pays où on ne peut pas lutter ouvertement et où parfois il faut le faire dans la clandestinité, en cachette. Il faut
donc
se regrouper.
On peut lutter dans la clandestinité.
La clandestinité, il y en a beaucoup. Malheureusement, il y en a beaucoup de clandestins plus que de libres comme nous. Déjà, il y a beaucoup de pays d'Afrique où il est compliqué de mener des luttes sociales. Très expressive. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des mouvements à des moments et que les gens, sans organisation syndicale, on l'a dit tout à l'heure, il y a des gens qui n'ont pas vraiment besoin d'organisation syndicale pour sortir dans la rue ou se manifester contre un pouvoir politique, contre une dictature, parce qu'à un moment donné, c'est l'exemple de la Révolution française aussi, à un moment donné, il n'y avait pas de syndicat, mais quand le peuple il n'en peut plus, ou quand c'est la misère, quand on n'a pas de quoi donner à manger à ses enfants, à un moment donné, on se dit, de toute façon, on n'a plus rien à perdre, et on va aller se battre. Après, il y a aussi beaucoup de pays en Amérique du Sud où c'est très compliqué aussi parfois, même si on a pas mal d'échanges. Et puis, il y a des pays où l'expression syndicale, parce que culturellement, elle n'est pas la même, c'est dans des pays asiatiques. On a beaucoup de liens avec le Japon, par exemple, où c'est une autre façon encore de militer parce que ce n'est pas la même culture. Et ils sont plus dans... on va dire qu'ils sont plus dans la discussion. Oui, c'est une façon de militer parce que culturellement, c'est pas spontané comme ça, même quand on est en colère, parfois de sortir dans la rue et de prendre des banderoles et d'aller manifester, quoi. D'ailleurs, on le voit en France aussi, hein, parfois c'est loin d'être spontané pour tout le monde.
Alors, bon, pour terminer cette interview, je vais vous demander, en ces temps de marche en avant, est-ce qu'on a encore des raisons de se plaindre ?
Ah oui, je pense qu'on va avoir, on en a déjà, mais on va avoir beaucoup de raisons de se plaindre. Enfin, au moins les salariés, puisque je vais parler pour ce que je représente et pour les gens qui m'ont mandaté. Mais vous savez qu'il y a des réformes en préparation qui ont été annoncées. Et là, entre autres, il y a une nouvelle loi travail qui se prépare avec des régressions importantes pour les salariés, que ce soit sur le licenciement, sur le contrat de travail. Clairement, le contrat de travail à durée indéterminée, le CDI, est très menacé, voilà, puisqu'on veut aller vers des contrats beaucoup plus précaires aujourd'hui, avec des salariés plus disponibles et plus malléables, voilà. Et puis à la rentrée, il va y avoir la sécurité sociale, la protection sociale, qui va aussi être fortement attaqué. Les retraites à nouveau qui sont dans le collimateur. Donc je veux pas être voilà, après c'est haut les cœurs, hein. C'est pas perdu, hein. C'est pas perdu, mais il faut que les salariés ils se mobilisent et créent surtout des collectifs là où ils sont et pas qu'ils se défendent chacun à leur coin en fonction de leur individualité.
Alors, Nathalie Verdet, je rappelle que vous êtes secrétaire générale de la CGT de l'Eure. Et je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à nos questions sur les luttes sociales. Et je vais vous laisser peut-être nous donner les coordonnées ou comment joindre la CGT.
Alors, comment joindre la CGT? Donc, à Évreux, on est situé 12 rue de l'Ardèche, encore pour quelques temps, parce que là aussi, c'était une lutte sociale, on a voulu nous expulser, et on a gagné. Donc, on va être relogé, mais pour le moment, on est encore 12 rue de l'Ardèche. Alors, après, il y a un site internet qui s'appelle cgt27.fr. Dessus, vous trouverez toutes les coordonnées pour aller vite des différentes unions locales du département, puisqu'on est ailleurs aussi dans le département. Avec les mails, les numéros de téléphone et les horaires de Évreux, on est ouvert tous les jours, tout le temps, voilà, enfin tout le temps, d'à peu près 8h30 du matin jusqu'à 17h30, voilà. Et ailleurs, c'est plutôt sur, avec des accueils fixes, voilà.
Eh bien, je vous remercie.
Ben, merci à vous, c'était un plaisir.
Dans mon pays, il n'y a ni hiver, ni printemps, ni été, ni automne. Dans mon pays, il fait beau toute l'année. Dans mon pays, il y a plus de 62 dialectes. Dans mon pays, c'est tout la plus grande basilique du monde. Dans mon pays, nous étions unis avant la guerre. Dans mon pays, nous cultivons le café, le cacao, les véa et plusieurs d'autres cultures que je ne pourrais citer. Dans mon pays, il y a toujours des mutineries. Conséquences de la guerre. Dans mon pays, je pense qu'on pourra se réconcilier et se pardonner mutuellement pour que la paix renaisse. Je ne vous dirai pas de la deviner, mais mon pays, c'est la Côte d'Ivoire.
Bien. Alors aujourd'hui, nous allons préparer donc une quiche au saumon fumé. Alors les ingrédients, il nous faut une pâte brisée, 4 tranches de saumon fumé, 3 œufs, 25 centilitres de crème fraîche, une botte de ciboulette, une noix de beurre et du poivre. Il faut, pour faire cette recette en tout, 1h15, c'est 30 minutes de préparation et 45 minutes de cuisson. Alors, nous allons préparer le four à 200 degrés, thermostat 6 ou 7. Maintenant, il faut que nous prenions la pâte. Étalez la pâte dans un plat à tartre et piquez le fond avec une fourchette. Donc on étale bien la pâte dans le plat. Et on pique donc cette pâte avec une fourchette. Alors ensuite, donc il faut battre les œufs en omelette. Donc on bat les œufs. Trois œufs. Ensuite, il faut incorporer la crème fraîche et la ciboulette mincée. Donc on incorpore la crème fraîche, voilà. Et la ciboulette est mincée. Mais après, on rebat un peu. Alors ensuite, bon, il faut bien assaisonner, bon, c'est ce qu'on vient de faire. Hein. Ensuite, il faut verser 3 cuillères à soupe de cette préparation sur la pâte.
3 cuillères ?
3 cuillères à soupe qu'on met sur la préparation, sur la pâte. Alors ensuite, il faut émincer les tranches de saumon. Alors il va falloir donc mettre la moitié du saumon dans la pâte, ensuite verser ce qui reste de pâte dans le plat, et ensuite on met le reste de saumon sur ce qu'on vient de verser. Donc là, on dispose à peu près la moitié du saumon dans la tarte. Alors ensuite, on verse le saladier donc, sur la tarte.
Tout ?
Tout, oui. Ouais, c'est bon, ouais. Et après, on remet le reste de saumon dessus. Parfait.
Ça plique, hein?
Oui, on replie. On replie donc le bord de la pâte brisée. Ça va être délicieux.
Certainement.
Bah oui. Alors, je vais répéter donc la recette, les ingrédients, donc une pâte brisée, 4 tranches de saumon fumé, 3 œufs, 25 centilitres de crème fraîche, une botte de ciboulette, une noix de beurre et du poivre. Alors, temps total, donc 1 minute 15, ça se décompose en préparation 30 minutes et cuisson 45 minutes. Après avoir fait chauffer le four à 200 degrés, donc vous étalez la pâte dans le plat à tarte, piquez le fond avec une fourchette, battre les œufs en omelette et y incorporer la crème fraîche, la ciboulette émincée, assaisonner, verser 3 cuillères à soupe de cette préparation sur la pâte, émincer donc les tranches de saumon, en disposant la moitié dans le plat à tarte, recouvrir du reste de sauce et placer le saumon restant sur le tout. Enfourner pendant 45 minutes.
Les aventures du Narvalo, c'est dans Ozone Libre.
Il était une fois le père Fouras, 4 pieds sous terre au-dessus de Fort Boyard. Et il n'était pas seul. Pas seul du tout. alors qu'Olivier Minaud fait l'Indra tête de tigre. Fantôme de Batave, l'Amazon Premium a refondé son royaume de nains, cette fois exclusivement masculin, genre harem. Elle se fait à présent appeler Pas ce soir. Sur ces entrefaites arrive la fine équipe du Narvalo à la recherche de Lafouine, le mérou libre, qui avait pris cette direction. Nous retrouvons le Narvalo, Poupette, Bob Renard, Yodinde, Moulmou, Doudur, Louis Émile et Ronald Trumpet.
Kenavo les blaireaux, qu'est-ce que vous foutez là? C'est pas les journées du patrimoine? On est au repos, en attendant juillet.
Salut le PNQ. On vient pas pour ton jeu pourri, mais pour retrouver un ami. Notre camarade Lafouine, qui se prend pour un mérou, un peu trop libre, a disparu dans vos alentours.
Ah, c'est le type qu'on a pêché à la ligne d'horizontale. On l'a stocké dans l'aquarium de l'Ergastule. Bon, pour le récupérer, va falloir jouer. Ici, tout se gagne.
Est-ce qu'on peut pas aller juste le chercher sans se passer les épreuves ringardes? On fait genre, tu nous as pas vus.
Fort-Boyard doux, je kiffe dur. Un rêve doux qui se réalise dur.
Fort-Boyard mou, et la seule mou, raison mou, de notre présence mou. Si mou, nous ne pouvons mou pas participer mou, nous détruisons mou, la terre mou.
Bon, ben, j'ai pas le choix. Ça m'embêterait qu'on détruise la terre. J'ai pas envie de déménager. L'espace, j'ai déjà donné. Il y fait froid et personne ne m'y entend crier. Ma minette atlantique, passons donc un accord. Si on gagne, tu libères notre mérou libre.
Ok, mais si vous perdez, on te garde en otage pour remplacer le père Fouras, qui a un nouveau contrat sur Énergie Douce. Il va faire l'émission Les Charentais en Croatie.
Je suis un peu outré. J'aurais préféré remplacer Nikos pour être avec Canteloup, histoire de bien se poêler sans arrière-pensée, ni second degré. Parce que c'est bon de rire parfois. Ah, c'est d'accord.
Moi, j'ai la migraine. Je ne peux pas jouer.
Pas le temps pour ces enfantillages. Tu passes en premier. C'est moi le chef d'équipe. C'est moi qui décide.
Très bien. Suivons le nain passe-respire vers la première épreuve.
La fine équipe suit donc le plus grand des nains, 2,10 m pour info, originaire de l'île de la Pentecôte. Chauve à cheveux longs, insectivore vegan qui les mène devant trois portes.
Voilà trois portes.
Alors, je prends celle de gauche.
Celle du milieu, très bon choix. Passez donc ce déguisement d'anguille et bonne chance. Toutes mes pensées pour votre famille.
Alors, elles sont vivantes là, vous croyez?
Oui.
Pour le moment, elles dorment bien gentiment.
Laissez-les, elles vont s'en aller.
J'ai peine à vous croire, là.
Si, oh là là.
Parce que qu'est-ce qu'il va falloir faire?
Eh bien, il va falloir les assommer.
Ouais.
Et les tuer, oui. Bien entendu. Aïe. Alors, pour les tuer, je vais peut-être l'assommer, on va voir. Mais autrement, il faut les inciser, là, tout le tour. Voilà, il faut les inciser tous les tours. Et... Oh, bouge pas, ma chérie. Ne bouge pas, ma chérie, on va juste... C'est rien. Et après, on l'appelle.
Aïe, oui.
Allez, hop. Oh, viens là, ma puce. Alors voilà, je vais prendre un chiffon.
Oui.
Vous allez voir. Et la peur est Micheline. N'ayez pas peur, ma petite. Là, voilà.
Mais après ce que vous lui avez raconté, évidemment. Hein.
Là.
Voilà.
Eh bien, vous allez voir, elle ne va pas souffrir comme ça. Viens là, ma puce. Viens là, ma biche. Viens là. Là, il ne faut pas être en grande tenue. Hein.
Eh oui. Et c'est glissant. Il tient votre chiffon à peu près?
Oh que oui.
Ah oui. Hop. Vous l'assommez un petit coup, là, pour l'endormir.
Je crois que ça ne lui suffit même pas. Viens là, ma chérie. Tu n'auras pas ma peau.
Ben dites-moi, c'est vigoureux, là, on
dit. C'est terrible.
Hein. Terrible, hein.
Vous avez l'air de vouloir dormir, hein.
Ben c'était une...
Là, c'est rien.
Ça y est.
Hop. Voilà.
Eh ben,
alors
vous
là,
savez...
c'est vous qui allez me prendre la relève.
Oui, je la
tiens. Qui allez bien me la serrer.
Oui.
Et moi, je vais prendre le couteau. Voilà. On va la tourner comme ça.
Un sentiment d'horreur envahit toute l'équipe narvalesque, qui assiste à cette scène sanguinaire et néanmoins létale. Seuls les extraterrestres s'amusent comme des petits fours.
C'est pionnage du, mais ravi doux.
J'ai pas autant ri mou depuis mou, les dents mou de la mer mou.
Oh mince, mon mari. Bon bah tant pis, encore un prétexte pour ne pas revenir à la maison. Toujours en train de faire l'anguille, celui-ci.
1-0 pour le fort. Bon, Qui pour la prochaine épreuve auprès du père Fouras?
J'y vais. Les énigmes, ça me connaît. Je suis champion des Ardennes de Black Carambar.
Très bien. Suivez Passe Navigo jusqu'au cœur du phare du fort.
Le narvalo poursuit donc le nain Passe Navigo, vert et mauve avec sa photo dans un coin et réduction famille nombreuse, jusqu'au cœur du phare du fort.
Oh, c'est toi qui vas me remplacer? On va voir si tu as le niveau. Première énigme. Qu'est-ce qui est noir, rouge ou bleu et qui se porte aux pieds?
Des chaussures.
Non, ne soyez pas ridicule. Aucun rapport. Des chaussures aux pieds, bien sûr.
Alors, un rhinocéros nain croisé.
Bravo, mais ta bonne réponse est le fruit de la chance. Essayons une deuxième énigme. Qu'est-ce qui est gros, bleu et qui nage dans l'océan?
Une salade.
Précisez.
Une scarole.
J'ai en fait trouvé un remplaçant digne de ma réputation. Je peux repartir le cœur léger, les lacets serrés, direction des lance-flots croates.
Voilà qui nous fait un partout. La partie est serrée, comme les lacets du père Fouras. Passons à l'épreuve de vérité. Allez, qui s'y colle?
Moi.
Suivons Anissé. Le nain pastis vers la prochaine étape, numéro 51. C'est le nain préféré de la police. Il est petit, bleu, très enjoué et il adore les papiers. Cette épreuve se nomme la bouillabaisse. Il s'agit tout simplement d'un combat debout avec un tigre. Le temps est limité à 3 minutes, mais rarement les 10 secondes ont été atteintes. Une fois, Joe Star l'a emporté, mais c'est anecdotique. Entrez et que le meilleur gagne.
Faire mou, combattre mou, une dinde mou avec un tigre mou, seuls les humains mou peuvent y voir mou, un suspense mou.
La capacité à souffrir de l'homme doux n'a d'égal que sa connerie qui dure, dure.
En 4, 5 ou 6 saisons de narration du narvalo, je n'ai jamais rien vu d'aussi ridiculement palpitant. Approchons-nous pour voir de nos propres yeux narratifs. Le tigre ne semble absolument pas s'intéresser à la dinde. Il me regarde avec ses yeux chassieux. Il s'approche, il ouvre grand sa gueule. Il a mauvaise haleine, je lui tends un chewing-gum et... Ah !
Quelle vilainie ! Ça dépasse le n'importe quoi. Plus de narrateur pour narrer donc ma narration. Si c'est comme ça, je conclue l'épisode et je reprendrai que si un nouveau narrateur est désigné. Mais où trouver un nouveau narrateur? Faut-il faire confiance à M6 qui souhaite organiser un casting géant intitulé « La France » à une incroyable nouvelle star qui est trop narrateur dans le prêt de l'appartement magnifique à vendre? Le tigre est-il un animal de fort? Pour le savoir, écoutez les aventures du narvalo, c'est-à-dire moi, le jeudi 27 juillet à la même heure, et comme on dit dans les jeux ringards, Kenavo les blaireaux et bon vent Jean-Pierre.
Les aventures du narvalo, c'est dans Ozone Libre.
Quand on vous dit lutte sociale, vous pensez à quoi et à qui?
À Jean-Luc Mélenchon.
Alors, aux gens qui ont de l'argent et ceux qui n'ont pas, à ceux qui sont de couleur et ceux qui sont autrement, à ceux qui sont handicapés, voilà, à toutes ces choses-là.
La jeunesse?
Je pense surtout au mouvement de 1936 qui a permis au mouvement salarié d'avoir des acquis sociaux. Et puis, bien sûr, lutte sociale, c'est le prolongement, on le voit bien, dans les entreprises avec des difficultés, des fermetures d'entreprises. Et donc, actuellement, on en voit en cours.
L'ensemble de la population, lutte sociale, c'est pour aider les gens à trouver du travail, à manger, à vivre dignement. Voilà. C'est ce que pour moi, c'est ça.
Waouh, c'est assez vaste, en fait, hein. Je pense à tous les gens, à tous les citoyens en fait, hein, qui sont dans la galère entre guillemets. en 2017, c'est dur pour tout le monde. Donc voilà, c'est à ça que ça me fait penser, en fait, la lutte sociale.
Bah, la population, qui est un petit peu rejetée. Voilà.
Que reste-t-il des luttes sociales?
Que reste-t-il? Les congés payés, tout ce pourquoi le peuple s'est battu, je dirais. La liberté, peut-être. Ce qu'il en reste.
Je ne suis pas assez concernée par, en fait. Je pense qu'il y a des gens qui continuent à lutter et d'autres qui ne luttent pas.
Les luttes sociales, ce qui reste, bah, c'est de sortir les jeunes de la misère. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? La lutte, c'est ça. Hein? Les jeunes de nos jours, ils partent vite à droite, à gauche, au lieu de partir dans le bon chemin, quoi. Donc c'est un peu ça, quoi, la lutte, hein, aujourd'hui. Hein? C'est de bien suivre nos enfants et qu'ils partent dans la bonne direction. Hein?
Il y a justement, on le voit bien avec GMS dans la Creuse, on le voit bien à Amiens avec Whirlpool. Il y a encore une lutte sociale pour le maintien de l'emploi.
Tout est à faire parce que on perd tous les jours un petit peu de nos acquis. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Je pense qu'il faut, c'est une lutte de tous les jours. Il faut tous les jours lutter pour les autres.
Les gens font justement pas grand-chose aujourd'hui. Donc il n'en reste pas grand-chose. Tout le monde sait beaucoup de blabla pour rien. Il n'y a rien de concret, en fait.
Pas grand-chose, hein. Pour moi, pas grand-chose, personnellement.
Quelle serait, selon vous, la meilleure raison de lutter?
Déjà, tu vas me dire tu, parce que je pourrais être ton frère, pas ton père. Non, j'ai pas compris ta question.
Quelle serait, selon vous, la meilleure raison de lutter?
La liberté d'expression, pas forcément en France, ailleurs dans le monde.
Mais non, mais la lutte sociale, vous parlez de qui, de quoi, en fin de compte, c'est ça? Parce qu'il y a tellement, de cas différents dans
c'est
la lutte sociale.
Voilà, en fait, ça, la première chose
ça dépend si vous parlez en ce moment de tout ce qui se passe, de l'immigration, ou des Français qui ont du mal à manger, qui n'ont pas de boulot. Ça dépend de qu'est-ce que vous voulez aborder comme problème. Il y a tellement à dire, à faire partout. Hein.
C'est pas
une lutte sociale, l'immigration, ça en fera partie bientôt. Hein. Ça en fera partie. Hein.
La meilleure raison de lutter, c'est l'unité. Vivre ensemble, qu'on soit de toute communauté et qu'il n'y ait pas de soucis. C'est pour ça que moi j'ai créé mon association, par rapport à ça. Voilà, qu'on soit blanc, noir, chinois, tout le monde peut venir chanter, tout le monde peut venir supporter. Et sous une seule étiquette, le club de l'EFC 27. Voilà.
Et bien justement, pour conserver son emploi, je pense que c'est une bonne raison de lutter.
Bah, peut-être que tous les gens puissent manger à leur faim, vivre dignement, et voilà, qu'il n'y ait plus des gens dans la rue. Et pour ça, il faut qu'il y ait du travail pour tout le monde. Et il faut que peut-être les grosses sociétés, les multinationales, aident les gens à vivre correctement.
Bah, la remise en question de la population, déjà, pour commencer. Je pense que la population, elle est assez responsable, en dehors des politiques, du système. Voilà, pour moi, c'est...
de vouloir le bien-être de tous, de vouloir s'en sortir, de faire du bien à soi-même, le don de soi. En fait, tout ça, c'est des raisons qui me donnent envie de lutter, par exemple.
Enfin, le plus grand jour de ma vie. 40 ans que je ne vis que pour ce jour. Je suis tellement excité que je pourrais déclarer la guerre aux États-Unis, comme ça, juste pour le fun. Bon, allez. Plus que quelques étages et j'arrive à mon siège VIP. J'ai la meilleure place pour vivre la finale de la Coupe du Monde de football, avec cabine climatisée et shampoing à volonté. Toutes ces années de recherche pour développer une nouvelle génération de stéroïdes a enfin payé. Aujourd'hui, mon équipe est en finale. Brésil, Corée du Nord. Oh, ça va être beau. On va aller massacrer les danseurs de samba. Non, pas maintenant. C'est pas vrai. On sait fabriquer les meilleurs produits dopants du monde et on n'est pas capable de faire marcher un ascenseur. Bah, j'espère que ça va pas être long. Je reste calme. Allez, appel d'urgence. Alors, bande de débiles, vous me débloquez cet ascenseur tout de suite ou je vous fais tous bouffer par mes chiens? Évidemment, ils ont été incapables de faire repartir l'ascenseur. Ils n'ont même pas été fichus de faire marcher correctement l'appel d'urgence. Après un long silence radio, alors que j'étais dans une telle colère que j'aurais pu faire une partie de golf avec Trump, l'appel d'urgence se remet enfin à fonctionner. Et là, ils m'annoncent que le match est déjà fini. Alors après leur avoir confirmé que mes chiens allaient bien être tous les bouffés, ils m'ont dit que l'ascenseur pouvait repartir. Je leur ai demandé le résultat du match et ils m'ont dit 42-0. Et là, bah, j'ai exulté, j'ai dit « Génial, énorme, merveilleux, allez, on bombarde Washington !» Et là, ils ont dit « Non, c'est 42 pour le Brésil, 0 pour nous. » Et puis ils m'ont dit « Ça y est, l'ascenseur repart. Bah, » Je leur ai dit « Non, laissez tomber, je reste dans mon ascenseur. »
Après donc un long débat contradictoire, à l'unanimité majoritaire plus 1, nous avons voté donc en assemblée générale avec les camarades la levée de cette émission, de l'embargo sur le temps qui passe et de l'occupation des ondes à but non lucratif de principe actif. Nous remercions encore Nathalie Verdeil, secrétaire générale de la CGT de l'Eure, d'avoir bien voulu, sans pression du MEDEF, répondre à nos questions sur les luttes sociales. Nous remercions également l'équipe d'Ozone Libre, une équipe haute en couleurs et en mots, ainsi que l'équipe de principe actif JC, le petit père du Pueblo, Damien, le sous-commandant Tacos, et Timothée, Essec et Parape. Nous vous donnons rendez-vous pour une émission spéciale casting et merguez le 27 juillet à 12h30. En attendant, retrouvez vos podcasts sur la page Ozone Libre du site Principe Actif. D'ici là, hydratez-vous bien. N'oubliez pas Mémé sur la route, avec le chien surtout en Angleterre. Et restez cool, Mémé, surtout, je te dirai bye bye.